un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir, sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je reçois cette fois-ci Pauline Bicholaire, qui est manager de diversité, d'égalité et d'inclusion chez Cegide. Nous parlerons ensemble de son parcours professionnel et de son poste actuel qui est lié à une reconversion. Puis, nous aborderons les thématiques de lutte contre les inégalités dans le monde professionnel. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, Madame Pauline Bicholaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes manager de diversité, égalité et inclusion chez Cegide depuis maintenant 1 an et 9 mois. Donc, Cegide, c'est une entreprise éditrice de logiciels de gestion pour la finance, les ressources humaines et le retail. Et vous êtes aussi la créatrice du podcast Étoile montante, les voix de l'égalité. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la formation que vous avez suivie et ce que vous avez appris lors de vos études?
Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis diplômée d'un master de Sciences Po Lyon qui s'appelle Affaires internationales. Donc, j'ai commencé mes études après un bac ES à l'époque. Donc, c'était en 2013 et j'ai rejoint Sciences Po Lyon pour 5 ans. Donc, les premières années, c'était très généraliste. On avait de l'histoire, de l'économie, des sciences politiques, des langues. Et puis, ensuite, en troisième année, je suis partie en Erasmus pendant 1 an à Berlin. Donc, c'était une très chouette expérience. Et quand je suis rentrée, en fait, de mobilité à l'étranger, j'ai souhaité me diriger vers les affaires internationales parce que j'avais vraiment adoré tout ce qui touche à l'interculturalité, également au management, parce que j'ai pu suivre quelques cours de management à Berlin. Et ensuite, donc, je me suis spécialisée en affaires internationales avec un axe commerce, commercial, marketing aussi, puisque j'ai toujours été passionnée d'économie et j'avais aussi envie d'avoir cette fibre business dans mon cursus. Donc j'ai appris beaucoup de choses, c'était vraiment une très belle expérience, ma vie étudiante. Je me suis engagée dans plusieurs assos étudiantes en parallèle, notamment des associations d'événementiel et de sport. Et ça m'a vraiment permis d'avoir une connaissance un petit peu plus fine du monde qui m'entourait, de prendre aussi conscience des discriminations et des inégalités, des injustices auxquelles j'ai toujours été sensible.
Et donc, comment s'est construit, à partir de vos études, votre réflexion sur votre parcours professionnel?
Alors, ça a été très compliqué pour moi de m'orienter après Sciences Po Lyon, j'avais, on va dire, trois sensibilités différentes. J'avais effectivement cette fibre très sociale, lutte contre les discriminations et les injustices qui me tenait beaucoup à cœur, comme je l'ai dit auparavant. Il y avait également la partie économie et business qui me plaisait beaucoup, notamment tout ce qui est création d'activités, entrepreneuriat. Et j'avais aussi, cette facette créative, artistique que j'ai depuis que je suis petite. En fait, je suis passionnée de dessin, de photo. J'adore les milieux créatifs, les travaux, manuels. Et donc, j'avais envie d'avoir un peu tout ça dans mon métier, mais je ne trouvais pas. J'arrivais pas à trouver de job, en fait, qui corresponde à tous mes centres d'intérêt. Donc, ça a été assez difficile. Au début, j'ai souhaité plutôt m'orienter vers les industries créatives, à l'international. Donc, j'ai travaillé 2 ans et demi dans une maison de création de parfums, d'abord à Paris, ensuite à Vienne, en Autriche. Et donc, après ça, en 2020, donc, il y a eu le Covid, le confinement, et j'étais donc en Autriche, à l'étranger, dans ma maison de création de parfums. C'était super intéressant, mais là, en fait, j'ai commencé à douter un petit peu de la voie que j'avais choisie. Et finalement, je crois que j'ai été une des reconverties les plus précoces de ma génération et de mes amis, en tout cas mes amis de promo. Et donc, en fait, je me suis reconvertie après ça dans les métiers de la diversité et inclusion. En fait, j'ai commencé tout d'abord à travailler dans une association qui s'appelle Article 1, qui est une des plus grosses associations d'éducation populaire en France. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai fait beaucoup de gestion de projet là-bas. Et puis, au bout d'un moment, en fait, j'avais envie de retourner un petit peu en entreprise. Et surtout, ce qui me manquait, c'était l'aspect international. Du coup, j'ai eu cette opportunité-là chez Cegid en fin 2022. Et donc, en 2023, j'ai intégré Cegid en tant que responsable diversité et inclusion.
Quelles ont été les étapes de cette reconversion professionnelle?
Alors,
Enfin,
il y a
comment
eu
est-ce que vous
beaucoup
avez
de...
réussi à vous reconvertir au niveau des compétences? C'était ça ma question.
Ouais, au niveau... Alors, la reconversion, il y a plusieurs types de reconversion professionnelle. Il y a des reconversions professionnelles où on va devoir passer par la case formation. Imaginons un ingénieur en chimie qui veut se reconvertir en pâtisserie ou en droit, par exemple devenir avocat. Là, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir effectivement refaire des études, se former. Il va falloir des certifications, des diplômes supplémentaires. Moi, j'en ai pas eu besoin en fait. J'ai vu que j'ai pu transposer beaucoup de compétences, de savoir-faire et de savoir-être que j'avais développé pendant mes études à Sciences Po. Et puis finalement, ce qu'on me demandait, enfin ce qu'on me demande à mon poste aujourd'hui, c'est d'avoir de la créativité, d'être innovante, d'avoir un côté intrapreneurial, de convaincre, de fédérer, d'engager les gens. Sur les sujets qui m'importent et voilà de faire preuve de créativité, de conviction. Donc en fait, c'est des compétences que j'avais déjà développées dans le monde du parfum. Voilà. Donc finalement, ça n'a pas été un bouleversement total en termes de compétences. Si on demande gestion, si on demande des compétences en gestion de projet, en communication interpersonnelle, en créativité, en esprit d'équipe, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de soft skills qu'on peut réutiliser d'expérience en expérience. Et ça, c'est ce qui fait aussi leur force, la force des soft skills. Et effectivement, quand il y a des compétences techniques à acquérir en plus, là, il faut se former. Donc, j'ai passé un peu de temps à me former aussi quand je suis arrivée d'abord chez Article 1 et ensuite chez Cegid pour bien comprendre les tenants aboutissants de mon métier. Surtout que là, chez Cegid, j'ai quand même une partie assez importante de compréhension du droit du travail, par exemple, puisque il y a une réglementation qui encadre tout ce qui est discrimination, tout ce qui est aussi relations sociales, dialogue social. Et donc, au fil de l'eau, je me suis auto-formée en fait sur ces sujets aussi au contact de mes collègues.
Et donc, quelles sont vos tâches actuellement?
Alors, mes tâches, elles sont très diverses. Vraiment, c'est un métier qui est nouveau, qui est en construction. Donc, aucun jour, on va dire, ne se ressemble. Mon rôle, en fait, c'est vraiment de piloter la stratégie diversité, équité et inclusion du groupe Cegid. Donc, je vais devoir, par exemple, mettre en place une gouvernance pour piloter la stratégie et, on va dire, les actions qu'on veut mener à l'échelle internationale. Donc là, ça va être beaucoup on va dire, d'analyse macro. Donc je vais m'intéresser aux chiffres, je vais essayer de comprendre un petit peu les priorités de l'année. Je vais aussi fédérer, convaincre d'autres collègues de s'engager avec moi sur ces sujets-là. Je vais aussi, par exemple, suivre des indicateurs. Mettre en place par exemple un tableau de bord pour bien comprendre l'entreprise et voir où est-ce qu'il y a peut-être des progrès à faire. Par exemple, ça peut être sur la mixité des métiers. On est une entreprise du numérique, donc si on a des services avec des postes, par exemple, recherche et développement ou tech, où les femmes sont sous-représentées. Eh bien, je vais devoir analyser tout ça pour comprendre pourquoi et pour ensuite pouvoir proposer des actions qui permettent de changer la donne, de faire bouger les lignes. Et pareil sur plein d'autres sujets, les femmes sur les fonctions de management, par exemple, ou de direction. Ça peut être aussi sur les personnes, la communauté LGBT, l'intergénérationnel, l'interculturel. En fait, on se rend compte que les équipes diversifiées, elles travaillent mieux ensemble et que c'est important que chacun ait sa place dans l'entreprise, que chacun soit respecté. Donc, en fait, quand on regarde un petit peu, on va dire, les chiffres qu'on a sur certaines de ces données-là, ça nous permet aussi de comprendre là où il y a des efforts à faire, à mettre en place. Donc, dans toute cette partie un peu de stratégie, j'ai aussi tout ce qui concerne on va dire, l'amélioration continue de nos pratiques. Donc ça va souvent se matérialiser à travers des audits qu'on va recevoir, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les clients, en tout cas de Cegid, et les entreprises du monde entier quasiment, nous défient un petit peu sur nos, on va dire, sur nos volets, notre volet RSE. Donc c'est important, en fait, de leur montrer qu'on a des actions concrètes sur ces sujets-là. Et du coup, ça se matérialise par des questionnaires. Donc souvent, c'est beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de documents à aller chercher dans tous les services de Cegid. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Après, j'ai une partie aussi animation de réseau. En fait, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui montent on va dire un peu comme des mini-associations sur leur site. Donc en fait, on appelle ça des ERG. Donc c'est des réseaux, en fait, de collègues qui s'engagent pour une cause qui les intéresse, qui les mobilise. Et on a par exemple un réseau mixité qui s'appelle le Cegid Gender Equality Network, qui va proposer des actions concrètes pour améliorer la représentation des femmes. Ça peut être aussi pour l'égalité salariale, ça peut être aussi pour comment jongler entre vie professionnelle et responsabilité familiale, typiquement pour les jeunes parents, pour les parents. Donc je vais aussi piloter et animer ces réseaux-là, et proposer toujours des activités, des actions concrètes et innovantes sur ces sujets. Je vais aussi faire pas mal de représentations, donc ça veut dire prendre la parole lors de conférences liées à la RSE, par exemple. Ça va être aussi des stratégies de partenariat avec des associations locales, avec des réseaux, par exemple des réseaux féminins dans la tech, des réseaux aussi LGBT, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur mon métier? Il y a aussi une partie, j'en parlais tout à l'heure, de dialogue social, puisque aujourd'hui, les représentants du personnel dans les entreprises, donc le CSE, ont un regard sur tout ce qui est égalité entre les femmes et les hommes et personnes en situation de handicap. Donc, on va régulièrement se rencontrer pour proposer des améliorations, pour négocier aussi des accords d'entreprise sur les différents sujets. Donc voilà, je m'ennuie vraiment pas. C'est un peu ça le résumé.
Oui, c'est très
Voilà.
diversifié et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ça aussi ce que je trouve intéressant dans votre profil, c'est que vous travaillez dans une entreprise de la tech quand même qui sont quand même des milieux majoritairement masculins. Est-ce que vous avez déjà rencontré des résistances internes ou des scepticismes vis-à-vis des initiatives que vous pouvez prendre?
Moi, je pense qu'il y a toujours des personnes, des détracteurs, on va dire. Ça, c'est partout, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la famille, dans l'entourage, dans les amis, au travail. Il y a toujours des personnes qui sont détracteurs, enfin, qui vont, on va dire, plus que ne pas comprendre, c'est-à-dire s'opposer vivement à nos actions, parce qu'ils considèrent que c'est peut-être pas la place de l'entreprise que de s'occuper de ces sujets-là. Donc oui, ça m'arrive, mais je pense que c'est finalement une minorité aujourd'hui, puisqu'on a plus des personnes qui sont un peu, on va dire parfois des personnes qui connaissent pas forcément ces sujets, qui se demandent un petit peu pourquoi on en parle, mais qui sont pas non plus dans la, enfin ils vont pas tenir en fait des propos, remettre en question nos actions, etc., mais qui vont être un peu dans le doute, un peu entre deux. Et je pense que c'est ces personnes-là qu'il faut aller chercher, parce que c'est ce qui constitue un peu le défi, c'est d'aller les convaincre, les mobiliser et de leur montrer que ben, finalement l'égalité, c'est une question qui concerne tout le monde, et que c'est pas parce que on n'est pas une femme, on n'appartient pas, on va dire, à une population minorisée ou à une minorité ethnique, religieuse, ou autre. Et ben qu'on n'est pas concerné par tout ça, et c'est super important, en fait, de montrer. Et c'est en cela que parfois il faut aussi donner des chiffres clés. Par exemple, 50% des personnes en France seront un jour concernées directement par le handicap. Ça, c'est hyper important de le dire. 80% des handicaps sont invisibles, C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne n'est pas en fauteuil roulant ou n'est pas atteinte de cécité qu'elle n'est pas en situation de handicap. Il y a des personnes qui ont des maux de dos, il y a des personnes qui ont des handicaps cognitifs, psychiques, des maladies invalidantes, et c'est important de le faire reconnaître. Et inversement, l'égalité femme, enfin l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes. C'est l'idée, c'est juste de voilà de communiquer mieux ensemble, de répartir un petit peu mieux les tâches à la maison. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui bénéficient finalement à tout le monde. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, mon message, il est vraiment dans cette avec cette vision en fait d'avoir autour de la table tout le monde et de pas exclure, parce que parfois on a tendance avec quand on est passionné par une cause, on a tendance à exclure finalement les personnes qui ne sont pas d'accord ou alors qui ne sont pas totalement engagées sur cette question. Ben moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on a vraiment besoin de tout le monde. On a besoin des, voilà, des hommes, hein, quand on parle d'égalité entre les femmes et les hommes. On a besoin des personnes blanches quand on parle des minorités ethniques. Enfin, voilà. Je comprends que parfois, on veut se retrouver entre nous, mais moi, je trouve ça dommage parce que ça exclut. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. Voilà.
Justement, est-ce qu'il existe des formations ou des ressources qui sont mises à disposition des employés pour améliorer cette sensibilisation?
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, quand on est par exemple recruteur ou dans un service RH, on a forcément des formations sur l'antidiscrimination. Donc ça, c'est une obligation légale. Donc il y a effectivement ce cadre juridique-là qui est extrêmement important en France, et on a de la chance de l'avoir d'ailleurs, ce cadre-là. Et puis ensuite, on propose systématiquement à tous les nouveaux arrivants de suivre des formations sur l'inclusion. Donc on va en fait leur parler de handicap, on va leur parler d'égalité femmes-hommes, on va leur parler aussi de diversité. Donc ça peut être des questions liées à l'origine, liées au milieu social, liées au générationnel, au sujet LGBTQ+. Ça peut être aussi sur l'apparence physique. Enfin, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui est institutionnalisé chez Cegid. Et pour les managers, là, on a des formations en complément, des ateliers de 3 heures avec des coachs experts de la question. Et là, on va en fait leur donner des pratiques et des bonnes pratiques très concrètes pour mettre en place un environnement le plus inclusif possible dans leurs équipes.
Est-ce que vous-même vous mettez en place des stratégies pour concilier l'exigence de votre travail sur des sujets qui peuvent être assez sensibles, surtout lorsque vous étiez chez Article 1, et le maintien d'un équilibre émotionnel?
Une bonne question. Moi, je crois en plusieurs choses. Tout d'abord, pour moi, c'est important d'être intègre, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler, on va dire, enfin, en tout cas, j'ai du mal de travailler pour des causes qui ne me font pas vibrer. Donc voilà, je veux pas être en conflit de valeurs en fait. Donc tant que ça correspond à mes valeurs, bah, je suis super contente. Parfois oui, c'est un peu challengeant. Tout le monde n'est pas d'accord, mais encore une fois, c'est aussi la richesse de voilà des idées et des diversités. Hein, c'est qu'on n'est pas tous d'accord. Après, je pense que quand on exerce ce métier, il faut quand même se protéger parce qu'effectivement, émotionnellement, ça remue quand même beaucoup de choses. Parfois, on est aussi en ligne directe avec des personnes qui ont subi des discriminations, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, qui ont subi des attaques, des remarques sexistes, LGBT, homophobes. Donc, c'est un peu. Parfois, c'est un peu touchy, donc c'est important de maintenir un équilibre en fait dans sa vie et bah, en fait d'éviter que son tra enfin que on va dire son travail ait un impact trop important sur sa vie personnelle, parce que du coup les limites sont un peu fines entre conviction personnelle et métier. Et effectivement, c'est important. Bah, par exemple, moi j'ai un tips tout bête, mais j'ai deux téléphones. J'ai un téléphone personnel et un téléphone professionnel. Et quand je suis en vacances, bah, je regarde pas mon téléphone professionnel. Et quand je suis au travail, je ne regarde pas mon téléphone personnel. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais ça m'aide beaucoup à séparer les deux.
Quelles sont les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier?
Alors, il y en a quelques-unes. Je dirais déjà être un bon... Enfin, une personne qui aime la gestion de projet, surtout en multi-projet, parce que en général, on a quand même beaucoup de projets à monter et à piloter en même temps. Donc, on peut vite se sentir un peu submergé. Donc, c'est important de garder les idées claires et du coup, d'avoir un certain sang-froid. Après, je dirais que c'est important aussi de développer sa communication interpersonnelle. On ne peut pas communiquer de la même manière avec des salariés qui sont totalement convaincus, avec des personnes qui le sont moins, avec un comité de direction. Moi, j'échange beaucoup avec le comité de direction. En fait, voilà, c'est important d'être adaptable en fait, et de savoir communiquer avec des interlocuteurs très variés. Ça peut être aussi des associations, ça peut être des services publics, ça peut être des personnes en insertion, ça peut être des personnes aussi qui ont besoin de dé décharger émotionnellement quelque chose et qui sont, voilà, qui ont une forme de détresse et qu'il faut aussi pouvoir écouter. Donc, ça demande d'être un peu agile quand même en termes de communication. Et puis, je pense que c'est important aussi d'être curieux, de toujours continuer à s'instruire, à essayer de regarder un peu ce qui se fait ailleurs, dans le monde associatif, dans le public aussi. Il y a toujours des bonnes idées. Donc, voilà. Je pense qu'il faut une personnalité quand même relativement extravertie. Il faut aimer le contact avec les gens. Parce que si on n'aime pas le contact, si on n'ose pas aller parler aux gens, ça peut être très compliqué. Franchement, ça peut être même désagréable. Donc, il y a aussi beaucoup de métiers hein, pour les personnes introverties sur ces sujets-là. Mais en tout cas, quand on fait, voilà, qu'on est vraiment en responsabilité sur la diversité et l'inclusion, c'est important d'aimer le contact. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et à contrario le moins?
Je pense que ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de rencontrer des gens formidables, très régulièrement. Des personnes qui sont hyper inspirantes, hyper engagées, que ce soit des collègues, que ce soit aussi des fondateurs, des fondatrices d'associations, de start-up sociales. En fait, tout cet écosystème un peu de l'économie sociale et solidaire, il y a vraiment des personnalités incroyables et c'est vrai que ça donne beaucoup d'énergie. Enfin, moi, ça me ressource énormément. Donc, je croise la route effectivement de personnes super. Donc, ça, c'est chouette. Et aussi, ça va très vite. C'est vraiment en perpétuelle innovation, changement. Donc, ça, je trouve ça super intéressant aussi. Et le truc que j'aime le moins, je pense, c'est le côté reporting. Donc, en fait, quand on est audité par des entreprises pour avoir une certification, pour avoir, on va dire, une appellation supplémentaire, je sais que c'est absolument nécessaire parce que c'est ce qui permet aussi de valider certaines actions qu'on met en place. Ça permet aussi de nous départager, par exemple, avec d'autres entreprises, nous mettre en comparaison. Mais c'est vrai que pour les personnes qui travaillent sur ces sujets-là, c'est quand même très très pénible et c'est souvent en fait regarder des tableaux Excel toute la journée, collecter des documents administratifs. Enfin, c'est pas la partie la plus fun du métier. Voilà, même si c'est nécessaire.
Oui. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la DEI au sein des entreprises dans les prochaines années?
Eh bien, c'est une excellente question, Camille. Alors, ça dépend si on prend la casquette, les lunettes roses ou les lunettes noires. En ce moment, on est dans un moment, dans un temps qui est un peu déstabilisant. On voit qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de responsables diversité et inclusion qui sont démis de leurs fonctions, que ce soit dans le public ou même dans le privé avec Microsoft, Disney, Accenture. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, à mon sens, parce que pour moi, c'est vraiment la clé du vivre ensemble, de la prospérité sociale comme économique. Donc j'avoue que j'ai quand même une crainte vis-à-vis de ça. J'espère que en Europe on saura faire la part des choses et j'espère que les entreprises qui ont pris ces décisions-là vont sûrement les regretter amèrement et vont, j'espère, réengager leurs efforts sur ces sujets. Et sinon, si on voit d'un côté plus positif, je pense que les personnes enfin, les salariés prennent conscience petit à petit des inégalités. Et ça, c'est quand même assez chouette. Il y a eu quand même une grosse révolution avec MeToo, avec aussi l'avènement des réseaux sociaux, avec le Covid, notamment par exemple sur la santé, les questions de santé mentale, les questions d'équité salariale, les questions de droits des femmes, droits des personnes LGBTQ+. Enfin, voilà, je vois qu'il y a un sursaut, il y a un réveil sur un certain nombre de questions. Et je suis assez curieuse de voir ce que la génération là qui arrive à nous proposer. La génération Z, enfin, je vois beaucoup d'écoles, d'universités où il y a des missions égalité, où il y a plein d'initiatives, plein de très belles choses. Et j'ai hâte que ces personnes arrivent dans le monde du travail et viennent un peu secouer aussi et bouger les lignes. Voilà.
Oui, on est quand même dans une période assez étrange. C'était ça mon autre question. C'était comment est-ce que vous percevez l'émergence des politiques d'extrême droite dans le monde et en Europe, justement par rapport au futur des emplois que votre emploi ou même les autres emplois des autres personnes, que ce soit même dans les institutions publiques aussi?
Eh bien moi je les perçois, vous en doutez très très mal. Pour moi c'est un gros risque court l'Europe, la démocratie. Je suis assez inquiète. Je suis même très inquiète sur ces sujets-là. Je pense quand même que on a un fond de personnes qui sont très attachées aux valeurs démocratiques et aux valeurs de la République. Mais c'est juste qu'il faut remarteler ça et surtout, on a besoin, je pense, de médias. Enfin, pour moi, c'est une question aussi d'éducation, on va dire, à l'école et aussi dans les médias. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la scène médiatique, elle n'est pas très, très courageuse. C'est-à-dire qu'on a, là où, par exemple, en Belgique, côté Wallon, on ne donne pas la parole à l'extrême droite, en France, on a quand même la moitié des chaînes qui donnent la parole, voire appuient les idées d'extrême droite. Et pour moi, je trouve ça quand même très inquiétant. Moi, je me rappelle de 2002, donc j'étais toute petite, j'avais 7 ans. C'était un choc quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour de l'élection, au second tour de l'élection présidentielle. C'était un choc. C'était perçu comme une honte. Enfin, clairement. On se regardait, on n'y croyait pas. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est normalisé, quoi. Et ça me fait un peu peur, pour être honnête. Mais je pense que on est quand même nombreux à être engagés, mobilisés. Et voilà, il faudrait justement qu'on se concentre sur les personnes qui sont un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire qui savent pas encore trop comment aborder ces sujets-là. Et leur montrer qu'en fait, elles ont tout à gagner que de se mobiliser aussi sur ces sujets. Voilà.
Sur ce dernier point, vous avez justement votre propre podcast, donc Étoile montante, les voies de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus?
Oui, alors en fait c'est un projet qui est en cours de création, donc il n'y a pas encore d'épisode effectivement sur la chaîne de podcast. En fait, justement, c'est rigolo parce que ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la chose que j'aimais le plus dans mon travail, c'était les rencontres avec des personnalités inspirantes. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas, enfin, pourquoi les garder pour moi, en fait, ces rencontres, ces dialogues, ces conversations? Pourquoi ne pas les partager avec mon entourage, avec ma famille, mes amis, mes collègues et aussi voilà, toutes les personnes qui voudront les écouter? Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai l'impression quand même de côtoyer plein de gens formidables et j'aimerais bien qu'on puisse les entendre parce que c'est souvent des personnes qui sont anonymes mais qui ont un parcours hyper intéressant et voilà, j'aimerais bien que voilà, on puisse en profiter de façon un peu plus large. Donc, à suivre. C'est un projet normalement qui devrait voir le jour en juin.
D'accord.
Donc en juin, ce sera le mois de mes 30 ans en plus, donc ce sera aussi un
C'est
anniversaire
symbolique.
placé sous, voilà, c'est ça, c'est symbolique. Donc voilà, j'espère en tout cas, j'espère que pouvoir le sortir à ce moment-là, et en attendant, c'est en cours de préparation.
Est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait travailler dans l'accès aux droits et à la lutte contre les discriminations?
Oui, alors moi je conseille déjà de bien se renseigner sur les différents métiers, parce qu'il y a énormément de métiers quand même, en tout cas comme débouchés sur ces questions-là. Il y a beaucoup de métiers dans l'associatif, aussi dans les structures publiques et maintenant aussi dans les entreprises, espérons encore pour de nombreuses années. Je pense que c'est important en fait de connecter, enfin, c'est-à-dire d'aller contacter en fait des personnes qui travaillent dans ces métiers-là pour bien comprendre ce dont on a envie, ce qui nous plaît pas. Encore une fois, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les personnalités. Et si vous ne reconnaissez pas forcément dans le métier là que je viens de vous partager, je pense qu'il y aura plein d'autres métiers qui pourront vous plaire. Et vraiment, allez sur LinkedIn, allez contacter ces personnes-là. En général, ils sont quand même ouverts à la conversation, ouverts à la discussion. Les gens aiment bien parler d'eux en plus. Donc, on peut. Non, mais c'est vrai. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait, honnêtement, quand je suis arrivée pendant ma reconversion professionnelle. J'ai vraiment échangé avec peut-être une quarantaine de personnes avant de me décider sur un métier. Donc, voilà, je recommande aux étudiants et aux étudiantes de faire la même chose.
Pour finir cette interview, est-ce que vous avez un meilleur souvenir à nous faire partager en lien avec votre métier?
Oui, j'ai un bon souvenir à vous faire partager, alors qui est un peu lié à mon métier, mais ce n'était pas vraiment dans le cadre de Cégide que j'ai fait
C'est
ça.
pas grave.
En fait, il y a 2 semaines, donc c'était le 6 février, j'ai été invitée à l'événement Ensemble contre le sexisme à Lyon, à Sciences Po Lyon en plus. Donc c'était, je revenais un peu dans mon amphi de mes études, donc ça m'a fait sourire. Et en fait, j'ai été invitée par les organisatrices à conclure la séquence sur les femmes dans le numérique. Et j'ai adoré ce moment. Et en plus, j'ai vaincu un peu ma peur de prendre la parole en public, parce qu'il faut savoir que quand j'étais étudiante, j'étais très très timide. Je n'osais pas du tout poser de questions en cours, dans l'amphi. Enfin, j'étais vraiment très discrète. Et là, le fait de réussir à m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur devant un amphi plein d'acriquets avec plein d'experts du sujet, j'étais très contente, très fière. Et voilà, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de voilà, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir en replay sur le site Ensemble contre le sexisme. Il y a donc la partie qui a été filmée à Paris et une partie à Lyon. Et vous verrez, il y a vraiment plein de belles initiatives qui concernent l'éducation, l'entrepreneuriat, le numérique, les violences sexistes et sexuelles. Enfin, c'est super intéressant. Voilà.
Eh bien, madame, je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très intéressant.
Merci beaucoup à vous, Camille. J'ai apprécié l'échange.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt!